Bonsoir.
Clôture le week-end dernier à Dakar au Sénégal du 15e sommet de la francophonie. À l'issue de ce sommet, la Canadienne Michaëlle Jean a été désignée nouvelle secrétaire générale de cette organisation. Plusieurs discours ont été prononcés, parmi lesquels celui du président français qui a évoqué son opposition au chef d'État qui tient tout intérêt de modifier la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Comment analyser l'organisation de ce sommet? Nous en parlons avec André-Alain Atundu-Luongo et les cadres de la majorité présidentielle, le président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Bonsoir André-Alain Atundu-Luongo.
Bonsoir.
Valentin Moubaki, le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, les conseillers politiques d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir Valentin Moubaki.
Bonsoir.
Et professeur Julien Kilanga, il est professeur à l'université d'Angers en France, et il est ancien recteur de l'université de Lubumbashi et ancien directeur à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir professeur Julien Kilanga.
Oui.
Bonjour. Bonsoir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, c'est les thèmes du 15e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar au Sénégal le week-end dernier. Un sommet marqué non seulement par la passation des témoins dans l'organisation de ce sommet, mais aussi par la désignation de l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, au poste de secrétaire générale de l'organisation. Les temps forts de cet événement, avec vous, Berry Franklin Louchaka.
L'ambiance était à tous les niveaux en partant de l'arrivée des différentes délégations jusqu'à la désignation du nouveau secrétaire général de l'organisation en passant par les différents discours du haut de la charte de l'OIF. Parmi les grands moments de cette fête de la langue française, il y a eu notamment le passage du bâton de commandement de la francophonie par Kinshasa à Dakar. S'en est suivi les différents discours des chefs d'État à la chaire de l'organisation de la francophonie. Le président sénégalais Macky Sall s'est focalisé sur la thématique même de ce 15e sommet. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Au dire du président sénégalais, le choix de ce thème est consécutif à la volonté de voir la francophonie à l'origine institutionnelle céder la place à la francophonie des peuples. Le président congolais Joseph Kabila, pour sa part, est revenu notamment sur les efforts d'accompagnement qu'a déployé l'OIF durant les 2 années de son mandat au service de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme dans certains pays membres. Cependant, le discours qui a le plus retenti en Afrique était celui du président français. François Hollande a axé son discours notamment sur la solidarité en vers les pays victimes d'Ebola, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre le terrorisme, l'éducation et l'investissement en Afrique. Le président français a surtout été applaudi par l'assistance lorsqu'il a évoqué son opposition aux chefs d'État qui tentent ou tenteraient de modifier la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. François Hollande a à cet effet pris l'exemple du Burkina Faso en indiquant que le peuple d'Afrique a besoin de démocratie. À cette interpellation, le Rwanda, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, n'a pas hésité de qualifier ce discours de paternaliste. Selon plusieurs sources concordantes, c'est ce critère qui a le plus pesé dans la désignation de Michaëlle Jean au poste de secrétaire général de l'organisation francophone, ce qui a même poussé le président congolais Denis Sassou Nguesso à rentrer à Brazzaville car son candidat Henri Lopez n'a pas été retenu au vu des manœuvres que mènerait le parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, afin de maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir.
Merci Berry Franklin Louchaka, André-Alain Atundu-Luongo. Je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle, président du parti politique et convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Le 15e sommet de la francophonie a vécu, 35 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Quelle lecture vous faites de l'organisation de ce sommet?
Je crois que sur le plan organisationnel, c'était une réussite incontestablement, notamment par la participation des chefs d'État. Il était plus de 20, ce qui est une belle réussite. N'est-ce pas? Les discours ont été bien tenus, l'organisation était parfaite, mais ce n'est pas ça qui a retenu l'attention et l'attention de l'opinion africaine et internationale. Vous pensez bien, vous avez fait allusion, il y a eu, je crois, 2 faits majeurs. Sinon 3. Le premier, c'est la passation des témoins. Voilà. Le président Kabila a passé des témoins au président Macky Sall. Dans la bonne tradition, le président Kabila a fait un discours j'allais dire convenu, il a fait le bilan de son action et il a souhaité bon vent, bonne route, n'est-ce pas, à son successeur. Alors, le deuxième, c'est la désignation, on va dire, de la secrétaire générale de l'EIF.
Michaël Jean.
Madame
Michaël Jean.
Madame Michaël Jean, qui n'a pas fait que des heureux et qui, je pense, va laisser indubitablement des traces, n'est-ce pas, au sein de l'EIF, parce que à un certain moment, on a pensé sanctionner un candidat à cause d'une certaine socialisation, ou j'allais dire nationalisation, de la faute prêtée à son président. Enfin, le troisième, c'est le discours du président Hollande, qui ne peut passer inaperçu, d'abord en raison de la place particulière de la France, parce que c'est quand même sa langue, et ensuite en raison du ton pontifical et de la posture dogmatique en s'adressant à ceux qui sont censés être ses pairs. Je crois que ce fait a été remarqué et n'est pas à l'avantage de notre organisation dont elle a un peu ébranlé la cohésion, sinon la cohérence.
Voilà, le thème choisi pour cette année était « Femmes, jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Mais ce thème, apparemment, n'a pas été suffisamment exploité. C'est plutôt des questions politiques qui ont éclipsé toutes les autres questions. Et ceux qui disent que la francophonie est beaucoup plus politique que culturelle n'ont pas tort.
Je pense qu'en approfondissant effectivement le déroulement des travaux, on se rend compte que la francophonie a un tournant où elle doit se déterminer. Alors qu'est-ce que c'est la francophonie aujourd'hui, fondamentalement? La francophonie, c'est trois choses. La francophonie, c'est d'abord la langue française qui est une valeur culturelle indéniable et au retentissement national. La francophonie, c'est la conscience géostratégique du français. N'est-ce pas, cette conscience, voilà, nous parlons français dans tous les continents, etc. Et troisièmement, c'est l'organisation, c'est-à-dire la structuration de cette conscience géostratégique en une organisation appelée OIF. Alors, l'organisation, je pense que c'est ça le problème de la francophonie. Parce que l'organisation est censée, au départ, n'avoir qu'une ambition culturelle. Aujourd'hui, elle a disparu, comme vous l'avez fait remarquer. Et à la place, elle a fait une option pour une ambition économique et politique. Prenant l'ambition politique, apparemment, dans l'ambition politique, c'est la démocratie. Et dans la démocratie, c'est le nombre et la durée de mandat des chefs d'État qui ferait problème. Or, les États africains ont beaucoup de problèmes. Et dans tous les cas, tous les pays francophones, on ne peut pas faire une lecture uniforme de tous les pays francophones. Il faut faire une lecture météorologique, chaque pays étant un cas à part, n'est-ce pas? Et en plus, la bonne convenance, la convivialité internationale, je crois, aurait voulu que ce genre de problème se traitât en aparté, comme on a fait pour l'élection de la secrétaire générale de l'OIF.
Mais surtout, l'un des temps forts de ces sommets était les tractations qui ont précédé la désignation du successeur d'Abdou Diouf. L'Afrique a présenté plusieurs candidats, mais il a été incapable, n'est-ce pas, de se mettre d'accord autour d'une personnalité. Comment peut-on expliquer cela?
Non, on ne peut pas aimer une chose et le contraire. La règle, en général, c'est la démocratie. Avait dit, nous avons la francophonie à l'ambition d'être une organisation démocratique. Et donc, on ne peut pas empêcher aux gens de faire le choix. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher d'avoir un choix. Or, le choix suppose toujours deux, trois. Alors, ce qui était important, ce n'est pas que l'Afrique n'ait pas eu un consensus sur un candidat, c'est les raisons pour lesquelles ces candidats ont été évincés. Bouyoya, on dit qu'il a été un putschiste. Gorbatchev était communiste. Poutine aussi.
Non, ça c'est un aval. Bon. Mais en amont, l'Afrique n'a pas été en mesure, n'est-ce pas, de réaliser un consensus.
Non, en amont. Ce n'est pas en aval. C'est en amont. Tout ça, c'est venu avant la conférence. C'est avant la conférence. Il faut suivre le discours, les interviews du président français. Il préparait l'opinion. Alors.
Et donc, en venant, en allant plutôt à Dakar, les Africains savaient que les candidatures qu'ils présentaient, c'était des candidatures à problème et qui seraient rejetées. Ils le savaient dès le départ.
Il n'y a pas de candidature à problème. Il n'y a pas de candidature à problème. Parce que le problème fondamental, c'est la capacité du secrétaire général à promouvoir les valeurs partagées au sein de la francophonie. Or, le président Buyoya a démontré, il a même été mandaté plusieurs fois par la francophonie. Mais le président, le premier ministre Lopez, c'est une valeur sûre qui aurait pu nous permettre de rentrer dans les fondements de la francophonie. C'est un homme de culture et des lettres. C'est un dirigeant, un ancien Premier ministre,
merci,
dont on ne connaît rien de mauvais en ce qui concerne la gestion. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Et malheureusement, par suite d'une certaine nationalisation d'une faute prêtée au président Sassou, il ne pouvait pas. Alors, du fait du péché originel du président Buyoya, il ne peut pas. Alors, est-ce que ce sont des critères qui étaient connu a priori.
Merci, Valentin Mouvaké. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP sans sigle et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Quelle est votre analyse par rapport à l'organisation du 15e sommet de l'OIF à Dakar?
Bon, je viens de suivre la réponse donnée à cette question par M. Atundu. Je dois tout de suite vous dire que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a un cadre, une charte. Et cette charte-là, au départ, parlait de deux piliers, comme il a rappelé, la culture, la langue française, et on vient d'ajouter un troisième pilier qui est le pilier économique. La langue française que nous avons en partage, en commun, dans le cadre de la francophonie, c'est une langue qui véhicule un certain nombre de valeurs. Vous ne pouvez donc pas appartenir à la francophonie et surtout prétendre diriger l'OIF si vous n'incarnez pas ces valeurs. Vous ne pouvez donc pas prétendre être secrétaire général de l'OIF si vous faites allégeance à un chef d'État où vous appartenez, vous êtes élite d'un pays qui bafoue ses valeurs fondamentales. C'est le cas de ce pays. C'est le cas de Lopez qu'il a cité.
Ce sont là les critères sur lesquels on se base pour
mais c'est la francophonie, je dis, nous avons en partage la langue française. Cette langue française, nous l'avons empruntée aux Français, à la France, qui a fait la révolution, sur base de laquelle cette révolution française véhicule depuis des valeurs de liberté, des valeurs de droit de l'homme, des valeurs de la démocratie. Et depuis longtemps, la France-Afrique, de tous les présidents qui ont précédé François Hollande, se sont accommodés avec un certain laxisme avec leurs amis africains, un syndicat des gens qui, comme l'a dit Hollande, qui croyaient avoir de la culture par le seul fait de parler français. Oubliant que parlant français, ce n'est pas seulement les mots qui sortent de leur bouche, mais aussi ils devaient avoir un comportement responsable pour véhiculer les valeurs de cette langue française. Donc, que certains commencent à s'étonner aujourd'hui, en parlant de ton pontifical, en parlant de ton condescendant, comme j'ai écouté d'autres avant de venir ici, en parlant de ton paternaliste, eh bien, cela oublie à quelle organisation ils appartiennent. Ils appartiennent à la francophonie et nous disons, depuis Dakar, la France vient de payer une dette vis-à-vis des pays africains. C'est cette dette de sa responsabilité historique vis-à-vis de l'Afrique. On ne peut pas imaginer que les pays les plus pauvres de cette planète, la plupart viennent d'Afrique noire, et la plupart sont des ex-colonies françaises. Et l'origine de cette pauvreté, c'est la mauvaise gouvernance, le manque de démocratie, l'absence des droits de l'homme. Et donc la France aujourd'hui vient d'arrêter de sonner l'alarme en disant « c'est fini ça ». Vous voulez que la France vous appuie? Eh bien, commencez par devenir responsable dans vos pays. Ce n'est pas un ton condescendant. Ce n'est pas du paternalisme. La France subit et paye les conséquences de ces mauvaises gouvernances à travers ces pays africains. Je ne veux pas citer certains pays ici pour ne pas verser dans des susceptibilités politiques. Et voilà. Donc la France prévient, désormais, vous voulez être notre ami, vous voulez qu'on vous défende, soyez responsables chez vous. Respectez les droits de l'homme, la démocratie, la liberté de vos peuples, respectez-les.
Voilà, l'ouverture de ce sommet a été marquée par la passation des relais entre Macky Sall, le président sénégalais, et Joseph Kabila, président de la RDC. Et après le sommet de 2012 à Kinshasa, peut-on affirmer que la RDC a capitalisé les acquis de ces sommets de 2012? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler des retombées des sommets que nous avons organisés ici à Kinshasa en 2012?
Mais je ne sais pas en quoi peut-on le dire. Il y a eu quelques réunions qui se sont tenues ici, francophonie des femmes députées, francophonie je ne sais pas de quoi encore, mais je ne sais pas ce que le pays a eu comme gain après avoir abrité le sommet de la francophonie ici. Rappelez-vous que Madame Premier ministre du Québec de l'époque avait même dit à Kinshasa qu'il regrettait d'être venu à Kinshasa et qu'il venait tout simplement parce que la francophonie se tenait ici. Elle a dit au micro, ici même à Kinshasa. Il a fallu les efforts d'Abdou Diouf de l'époque pour que cette francophonie se tienne à Kinshasa. Même François Hollande ne voulait pas venir ici, pour les mêmes raisons qu'il vient d'évoquer à Dakar. Et d'ailleurs, les éloges qui ont été portés à la personne de M. Abdou Diouf ont été souvent accompagnés d'un certain bémol. Michael et Jean, c'est pour un nouvel élan. Ça a été dit plusieurs fois. Michael, Jean, c'est pour un nouveau souffle. En fait, on s'enlisait dans cette affaire-là de francophonie.
Elle même a dit que le mandat d'Abdou Diouf était marqué par... En fait, c'était un mandat beaucoup plus politique et qu'elle prenait une francophonie économique.
Oui, mais politique. Oui, politique, mais en matière politique. On ne sait pas comment l'Afrique a avancé. Rappelez-vous que même... Compaoré était pressenti le nouveau secrétaire général de la francophonie s'il avait accepté l'offre que M. Hollande lui avait faite. Et heureusement pour nous, les Africains, que ce monsieur s'est entêté pour que M. Hollande, le président de la France, se réalise finalement que il faut passer à la vitesse supérieure. Et nous, nous en félicitons.
Valentin Moumbaké, on a constaté des divergences de vues, n'est-ce pas, entre pays africains au sujet des successeurs d'Abdou Diouf. Pourquoi, à votre avis, l'Afrique a toujours du mal à constituer un bloc quand elle fait face à des enjeux importants?
Je ne partage pas ce point de vue-là pour le cas d'espèce. Je vous rappelle que c'est la première fois que la francophonie aura un secrétaire général qui n'est pas africain. Il y a eu Boutros Ghali, il y a eu Abdou Diouf, tous sont des Africains. Mais pour la première fois, les candidatures qui ont été proposées n'étaient pas des candidatures valables. À cause de ces candidats, intuit ou personne, on a cité Bouyoya ici, notamment, et à cause des pays qui soutenaient ces candidatures-là. Vous ne pouvez pas diriger le...
Le même Bouyoya qui est aujourd'hui considéré comme un ancien putschiste, mais qui est utilisé, il est apprécié par cette communauté internationale, et utilisé par cette communauté internationale quand il faut, n'est-ce pas, accomplir certaines missions.
Oui, juste accomplir certaines missions, mais pas pour donner l'image d'un secrétaire général, défendre l'image d'un secrétaire général de la francophonie. Il fait des missions, bien sûr, mais il se limite à cela. Et nous, nous disons que c'est pas que les Africains ne se sont pas mis d'accord, nous constatons cela. Les Africains, il y a un certain nombre d'entre eux, les présidents africains, qui ont compris qu'ils doivent travailler en phase avec leurs opinions publiques. Et quand M. Hollande parlait, derrière lui, M. Macky Sall applaudissait. Merci. Le président de Madagascar applaudissait.
Merci, professeur Julien Kilanga, professeur à l'université d'Angers en France. Vous êtes ancien recteur de l'université de Lubumbashi et ancien directeur à l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle. Comment vous analysez l'organisation du 15e sommet de l'OIF à Dakar au Sénégal?
Merci, cher monsieur. Je pense que il faut situer toutes les décisions dans un contexte précis. On venait de décrire en fait les grands événements, la désignation ou l'élection du nouveau secrétaire général, et également les différentes discussions qu'il y a eu autour de la thématique générale et toutes les conséquences tirées en fait de ces différentes décisions. Pour ma part, il faut considérer la francophonie au départ comme ayant la langue française comme le lien fondateur. C'est la langue française qui constitue en fait l'élément qui unit les différents pays membres. Et cela a été ainsi tout au long de l'histoire de la francophonie. Mais par la suite, on a fini par se rendre compte que au-delà de la langue, il y a l'homme, l'être humain qui a ses attentes, ses aspirations, l'être humain qui a sa culture et l'être humain, en fait, qui vit dans un espace donné où il a ses droits, ses devoirs. Et la francophonie, pour bien entretenir, bien sûr, une réelle synergie entre ces différents membres, a essayé d'élargir, en fait, ses missions. Et quand on regarde le cadre stratégique décennal issu de la déclaration du sommet de Ouagadougou en 2004, on a fini par déterminer les grands axes des missions de la francophonie. Bien sûr, à l'avant-plan, la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et le droit de l'homme, l'éducation, le développement durable et l'éducation dans l'ensemble. Et vous voyez que en élargissant ces missions, la francophonie a voulu prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain vivant dans cet espace francophone. Alors, quant aux décisions qui ont été prises au niveau du sommet de Dakar, bon, ça entre dans l'ordre normal des choses. Dans l'ordre normal des choses parce que la francophonie se retrouve sur les cinq continents. Sur les cinq continents, et le poste de secrétaire général est unique. Et par conséquent, c'est pas tout le monde, à partir du moment où on arrive à décider, à choisir une personne, le consensus finit en fait par se réaliser. Quelles que soient les aspirations de tel ou tel autre pays, à partir du moment où la décision est prise, tout le monde devrait en fait se mettre autour de la personne qui est élue pour essayer de bâtir la francophonie dans le sens de l'idéal du développement de l'être humain. Et ce qui est d'ailleurs très, très remarquable, la thématique développée femmes et jeunes, hein, vecteurs, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Il suffit en fait d'analyser les contours de cette thématique pour comprendre en fait le fond de la situation et le bien fondé de toutes les décisions qui ont été prises.
Oui, professeur Lala.
Je sais, oui.
Oui, vous avez dit qu'à partir du moment où une décision est prise, tout le monde doit s'y conformer. La désignation de Mme Michaëlle Jean comme secrétaire générale de l'OIF, d'aucuns ont considéré cela comme une imposition de la France et du Canada. Vous avez suivi l'ambassadeur Atundu qui lui estime que cela va laisser des traces dans les annales, n'est-ce pas, de l'OIF.
De par la connaissance que j'ai de la francophonie, pour y avoir travaillé comme directeur pendant 6 ans, je sais que il y a souvent des échanges libres et en dernière instance, les décisions se prennent par consensus. Et si on est arrivé à cette décision, ça veut dire qu'il y a un consensus qui s'est établi au niveau des différents pays membres. Quel que soit, bien sûr, le fait que tel ou tel autre ne peut pas être d'accord, mais on finit évidemment par se mettre d'accord. La preuve, il y a une année, Madagascar s'était proposé pour organiser le sommet. Mais il y a eu des problèmes politiques. Et à la suite des problèmes politiques, le Madagascar avait été suspendu. Et par le fait même, il ne pouvait pas plus organiser le sommet. Et c'est ainsi que le sommet a été organisé à cette époque en Suisse. Eh bien, mais au terme de la rencontre de Dakar, on vient de désigner le Madagascar comme pays organisateur du sommet, du prochain sommet.
Professeur Kilanga,
pour dire que... Oui.
Il y a Maître Adrien oui. Ilobakwei qui a réagi depuis Kananga au Kasaï occidental qui dit l'organisation de la francophonie est bonne, mais pour l'émergence de cette organisation, il est souhaitable que la francophonie supprime le système de consensus pour les choix des secrétaires généraux, car les consensus créent beaucoup de frustrations.
Oui, bon, ça c'est une manière de voir les choses. Mais ce système a toujours bien fonctionné jusqu'alors. Et à chaque sommet, quand on devrait normalement prendre telle ou telle autre décision, et je crois que c'est l'élément qui fait en sorte que on puisse tenir compte du point de vue des autres, quel que soit bien sûr le contexte dans lequel on se trouve. À partir du moment où on accepte de faire partie d'une organisation qui a ses règles, qui a ses statuts, n'est-ce pas, et qui a ses procédures, en fait, en cette matière, à partir du moment où on y adhère, on adhère à ces textes, et je crois que on devrait, et c'est ça la démocratie elle-même, on devrait se tenir à telle ou telle autre décision prise en tenant compte, bien sûr, de l'idée du consensus.
Merci. Ambassadeur André-Alain Tundu, 5 candidats étaient en lice, mais on n'a jamais su qui la RDC soutenait de tous ces 5 candidats. Nous, la RDC, nous avons soutenu quelle candidature?
Je ne sais pas. Ben, je pense que, normalement, nous avons dû soutenir le Premier ministre Lopez, parce que
notre voisin,
le président Sassou a sollicité le président de la République au nom des États, et la personnalité du Premier ministre étant tout à fait valable sur le plan culturel, sur le plan d'ouverture et sur même le plan de capacité organisationnelle, et donc c'est ce candidat-là que, en principe, nous avons soutenu. Mais ici, je crois que nous faisons une analyse radioscopique de ce qui s'est passé à Dakar. Nous ne sommes pas là pour faire la profession de foi de nos convictions d'opposition. Ici, il s'agit d'abord, la Révolution française ne s'est pas faite sur le droit de l'homme, etc. Non, parce que la colonisation est passée par là. Donc la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que le discours du président Hollande a été égalitaire lorsqu'il appelle les populations à la violence populaire par rapport aux dirigeants dont il suppose que nécessairement ils sont contre leur peuple?
Il a appelé les populations à la violence.
Ah oui, lisez, entendez ses propos, ce n'est ni plus ni moins qu'un appel, n'est-ce pas?
Il a fait mettre en position, n'est-ce pas, au chef d'État qui tend tout intérêt de modifier la constitution de leur pays.
Nous sommes en relation internationale. Les relations internationales se font entre États. Parce qu'en principe, faire de tels propos, c'est de l'ingérence. Donc, c'est entre États que les relations... S'il disait, les dirigeants qui font ça à leur peuple, nous suspendons les relations diplomatiques, ça c'est tout à fait normal.
Ambassadeur, c'est convenable. Ambassadeur Atundu, vous avez suivi Valentin Mouvaquet qui dit qu'on ne peut pas être membre, n'est-ce pas, d'une telle organisation lorsque on ne sait pas se conformer aux principes qui fondent même l'OIF, notamment la démocratie.
Mais mon frère Mbaki devait aller jusqu'à la logique de son raisonnement, exclure. Mais le professeur Kilanga vient de rappeler que la valeur fondatrice de La francophonie, c'est le français, c'est l'usage de français.
Mais ces missions, avec le temps, ces missions ont été élargies.
Non, c'est l'organisation de la francophonie en OIF qui a généré un certain nombre d'ambitions, notamment l'ambition politique, vouloir jouer un rôle dans le monde, n'est-ce pas ? Et non seulement dans le monde, dans les pays francophones, jouer un rôle économique. Est-ce que la francophonie s'est préparée quant à jouer ce rôle-là, valablement ? Parce que je crains que cette embardée, on va dire, de propos du président Hollande, ne provoque une certaine, un certain refroidissement. Parce que, vous-même vous avez relevé, le président Blaise Compaoré a perdu le pouvoir parce que il voulait changer la constitution. Maintenant, on pousse le peuple du Togo à bousculer, si je peux m'exprimer ainsi, le président Faure pour qu'il change la constitution. Et lui-même, M. Moubaki, ne se retrouve pas. Parce qu'il reconnaît que le président Hollande avait proposé au président Blaise Compaoré de prendre la tête de la francophonie. Et en même temps, il dit que non, le Premier ministre Lopez ne pouvait pas et le président Bouyoya ne pouvait pas. Est-ce que c'est le fait que le président Blaise n'a pas obéi au président Hollande qui l'a sanctifié ? Non, non, non. Il faut être objectif, il faut rentrer dans ses sources. Les candidats secrétaires généraux sont des personnalités à juger intuito personae, compte tenu de leur capacité et de leur valeur intrinsèque.
Merci, Vanassé Moubaké, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de l'ICASI au Katanga.
Ingénieur Rodrigue Moulumba de l'ICASI dans le Katanga. Ce discours devrait être compris comme un point de vue du français Hollande plutôt qu'un ordre de chef enjoint à l'Afrique. Il tiendra, à mon humble avis, de laisser chaque peuple souverain primaire décider de son propre destin.
Votre réaction.
Mais c'est une question qui vient bien à propos. Que devient la souveraineté d'un peuple bâillonné qui ne peut pas s'exprimer ? Ce sont là les présidents africains. Nous, on ne dit pas, on n'est pas d'accord en disant que M. Hollande fait de l'ingérence. Encore que.
C'est parce que vous êtes dans l'opposition. Si vous étiez au pouvoir, peut-être que vous utilisez le même langage que celui qui est tenu aujourd'hui dans la matière à Toundou.
En tant qu'être humain, et M. Atundu doit savoir que l'injustice n'a pas de limite. Ce qui se fait contre le voisin arrivera un jour chez lui. Ce n'est pas une profession de foi de nos conditions politiques. C'est une profession de foi de notre condition humaine. Tout simplement. Les paroles de M. Hollande n'incitent pas à la révolte. C'est faux. J'ai ici avec moi la phrase qui fait fâcher. Permettez-moi de la lire. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Fin de citation. Où est l'incitation à la révolte là-bas ? Où est l'incitation à la haine là-bas ? On dit que nous, on ne se retrouve pas. M. Hollande voulait trouver une solution au Burkina Faso. Il a vu venir le danger. Il a dit, j'extirpe ce monsieur Compaoré du Burkina Faso. Eh bien, comme il aime les honneurs, comme il aime le pouvoir, je vais lui proposer un poste, la francophonie. Comme il a refusé, M. Hollande est allé jusqu'au bout de la logique que nous soutenons en disant « Ce monsieur est inconvertible, comme il y en a plusieurs autres en Afrique. Il est irrécupérable. »
Vous avez suivi l'ambassadeur Atundu qui dit que la francophonie a des ambitions politiques et économiques. Il se pose la question de savoir si cette francophonie est préparée à bien jouer ses rôles.
Mais mon cher ami, si vous n'êtes pas préparé à entrer dans la francophonie, mais n'y entrez pas. Si de vous-même vous vous sentez incapable de véhiculer des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs des droits de l'homme, parce que tout à l'heure j'ai entendu ici, la francophonie c'était la langue française. Mais la langue française c'est un véhicule de valeurs. Le professeur Kilang a rappelé tout à l'heure que la francophonie a évolué jusque à considérer l'homme dans toutes ses dimensions. L'homme dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas en conjuguant le verbe être au présent que vous dites « j'ai dit, j'ai fait ça et je suis membre de la francophonie ». Ce n'est pas en parlant le français, je répète, que vous avez la culture française. Il faut le manifester à travers les valeurs véhiculées par cette langue. Liberté, égalité, fraternité, bien sûr. C'était au moment de la Révolution française. Par la suite, il y a eu la Charte universelle des droits de l'homme, inspirée par la France. Et tout le monde le sait. Et quelles sont les valeurs qui sont là-dedans? Ce sont ces valeurs-là qui se retrouvent dans la francophonie. Donc, si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités, de vous assumer comme État moderne, dans le cas de cette organisation, on n'oblige personne, et il n'y aura pas de frustration, comme je l'ai entendu ici. La frustration, c'est dans les têtes de certains syndicats chefs d'État. Les peuples africains sont tout à fait d'accord avec M. Hollande.
Professeur Julien Kilanga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kalemi au Katanga.
Kahiri Matembera à Kalemi, province du Katanga. Le premier facteur du sous-développement en Afrique est le manque d'une culture de dialogue. Et cela s'est observé même au niveau de la francophonie avec 4 candidatures africaines. Or, je me demande si l'Afrique aura à gagner dans cette organisation sans se parler et s'entendre.
Oui, professeur Julien Kilanga.
Oui. Je pense qu'on doit regarder les choses avec beaucoup de recul. Et essayer de prendre une certaine distance vis-à-vis de la situation et prendre une certaine position. Devant des situations de divergence, j'ai toujours pensé qu'il faut concilier les divergences. Évidemment, c'est une attitude difficile, mais pourtant, il faut tenter de vivre en conciliant les divergences. Et le contexte de la francophonie le permet. À partir du moment où on recourt à la question de consensus, à partir du moment où on recourt au dialogue, il y a moyen, au bout du compte, d'arriver à concilier les divergences. Mais le drame, évidemment, est que l'être humain est ce qu'il est. Il pense toujours à ce qu'il n'a pas, à ce qui lui manque. Mais c'est quand ce qui lui manque disparaît qu'il finit justement par penser que c'était important. Pensez à concilier les divergences. Et la francophonie, c'est un terrain, avec toutes les valeurs qu'elle partage, c'est un terrain qui permet de concilier les divergences. Et notre terrain africain, c'est un terrain plein de divergences. Et nous devons aller au-delà de ce que nous pensons, de ce qui se présente pour concilier les gens et travailler ensemble par consensus. C'est tout, pour ma part.
Oui, professeur Julien Kilanga, vous avez suivi l'ambassadeur Atundu qui affirme que la francophonie a des ambitions politiques et économiques et il se pose la question de savoir si cette organisation est préparée à bien jouer ses rôles.
Évidemment, être préparé, je me demande s'il faudrait qu'on pose cette question. Généralement, chaque fois que l'organisation internationale de la francophonie se réunit en sommet, elle prend la mesure de la situation et en fonction de la mesure de la situation, on essaye bien sûr de prendre des axes d'action et on planifie ces axes d'action pour une certaine durée et à terme, on fait l'évaluation pour se rendre compte des réalisations qui ont été faites et ce qui n'a pas été fait. Je vous ai parlé du cadre stratégique national qui a élargi les missions de la francophonie en intégrant les autres dimensions, mais tiré bien sûr des valeurs que véhicule la langue française, mais en mettant l'homme au centre. Eh bien, à partir de ce moment, on fait une planification pour autant de temps et toutes les actions réalisées par ces différentes directions sont fonction bien sûr de la ligne qui a été tracée au cours de la réunion, au cours du sommet. Et au prochain sommet, on fait l'évaluation. Et donc, c'est question d'y aller par étapes et progressivement arriver à se faire un programme et le réaliser d'une certaine manière. Et la francophonie a fini par intégrer, évidemment, les aspects de l'économie dans ses actions. Mais maintenant, il faut évidemment arriver à avoir les moyens nécessaires pour arriver à mettre tout cela en application. Mettre en valeur la parole, enfin, la langue française, l'apport de la langue française au développement économique des différents pays. C'est un des aspects dont il faut nécessairement tenir compte, mais bien sûr, il faut y aller progressivement, par étapes, avec une planification bien faite. Et je pense qu'il peut bien y arriver. D'autant plus que les moyens de la francophonie proviennent des différents pays membres. Et si ces différents pays membres lui donnent les moyens, la francophonie est en mesure, en fait, de réaliser ce qu'elle peut réaliser.
Merci. Monsieur l'ambassadeur Atundu, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Aimé Thurinda, j'appelle depuis la ville de Bukavu de la province du sud Kivu. Le sommet de l'OIF s'est bien déroulé à l'instar de celui de 2012 organisé en RDC. Et je félicite l'élection de la Canadienne Michaëlle Jean, car la francophonie n'est pas seulement pour l'espace Afrique. Quant au discours, et plus précisément celui de François Hollande par rapport à la mise en garde aux présidents africains qui veulent modifier les constitutions de leur pays, celui-ci va son pesant d'or et à mon avis, tous ces présidents doivent considérer ce message comme un conseil, bien que cela a été dit tout haut, car il avait été dit tout bas à Blaise Compaoré dans une lettre privée, mais ça n'a pas calmé ses appétits et aujourd'hui, il n'a pas d'adresse fixe.
Oui, il y a aussi Kabea Ibanda, depuis Kasongo-Lunda, qui dit « Le discours de la Bolle de François Mitterrand était aussi une ingérence de la France dans les affaires des pays francophones. Le monde bouge. »
En effet, le monde bouge. Et de cette intervention, de différents intervenants, la conclusion est que la francophonie a évolué. N'est-ce pas? De réalité fondamentalement culturelle, elle s'avance vers une réalité politico-économique. Je m'arrête à l'aspect
économique. Le moyen ne suit pas.
Voilà. Sur le plan économique, précisément, nous devons agir dans une certaine solidarité. Mais l'économie touche au social. Lorsque un partenaire amène de l'argent comptant, n'est-ce pas, et vous pouvez réaliser un objectif donné, eh bien, la solidarité, rien que par la langue, ne compte pas beaucoup.
Et donc, le moyen financier, c'est
l'un des défis. Mais c'est important. Mais d'abord, il faut d'abord préparer les moyens juridiques, les moyens conceptuels. Voilà, nous étions culturels, nous avons atteint tel résultat, et maintenant, nous allons sur le plan politique, il faut cheminer ensemble et à un même rythme. N'est-ce pas? L'évolution de la francophonie ne doit pas être unilatérale.
Merci.
L'évolution de la francophonie doit se faire en synergie avec tout le monde.
Merci.
Savoir attendre ceux qui sont en retard, les accompagner.
Merci Valentin Moubakier. Les moyens financiers, c'est l'un des défis, n'est-ce pas, pour l'OIF. Ça sera sur votre conclusion.
Bien sûr, mais comme les moyens financiers, bien sûr, sont importants, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais comme ici, en tout cas, sur ce plateau, l'accent a été mis sur le discours de M. Hollande à propos des révisions constitutionnelles, et nous sommes dans ce cas au Congo, je dois pouvoir souligner ici que pour que le Congo soit émergent, le Congo n'a pas besoin d'une quelconque modification de la constitution pour qu'il y ait la paix à Beni. Et au Nord Katanga, on n'a pas besoin de réviser la constitution. Le Congo a besoin des hommes et des femmes qui s'investiront dans la construction d'un nouvel ordre crédible, en rupture avec ce qui se passe dans ce pays depuis une quinzaine d'années.
Merci, professeur Julien Kilanga. Votre conclusion?
Comment?
Votre conclusion?
Pour ma part, je trouve que... la francophonie fait chaque jour un pas en avant.
Merci. Merci.
Et chaque jour, elle avance, et en essayant, bien sûr, de prendre la mesure de la situation.
Merci. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.